Pour le 15e siècle et le début du 16e siècle, il est évident que l'essentiel des sciences et l'essentiel des travaux des philosophes de la nature, comme on les appelle, ont lieu d'abord dans les universités. Ce sont d'abord les universitaires qui formulent les choses. Mais il se trouve que dans la période qui nous occupe, c'est-à-dire là, en l'occurrence, le 15e et le 16e siècle, des changements ont lieu qui font que de nouveaux sites de savoir apparaissent. Et une partie de l'explication de ce phénomène tient à ce que certains savants travaillent dans des disciplines qui ne sont pas les disciplines couvertes par les universités, des disciplines qui rendent floues les frontières académiques du curriculum habituel des universités, qui ne sont pas dans le quadrivium notamment. Par exemple, les frontières entre physique, mathématiques et astronomie sont de moins en moins étanches au XVIe siècle. Et des lieux comme les cours apparaissent comme des lieux d'émancipation. Alors un exemple dont je vous parlerai, que je trouve assez pertinent, c'est celui de Giordano Bruno, B-R-U-N-O. Vous savez, Giordano Bruno, c'est ce philosophe napolitain. Il est né près de Nola, en Italie du Sud. Et ce personnage, Bruno, hein, brûlé vif par l'Inquisition, donc science et religion, vous voyez. Ce Giordano Bruno est un défenseur des idées coperniciennes, et voire quelqu'un qui approfondit les thèses coperniciennes en allant jusqu'à proposer des choses assez délirantes sur les univers parallèles ou des planètes autres qui seraient également peuplées d'hommes, etc. Donc, ce Giordano Bruno, quand il vient en Angleterre, dans les années 1580, je crois 1586 si j'ai bonne mémoire, il parle non pas à l'université, non pas à Oxford et Cambridge. Il a déjà parlé dans des universités, il a déjà parlé à Toulouse par exemple, il a déjà parlé à la Sorbonne, mais à chaque fois ça s'est plutôt mal passé. Donc en Angleterre il fait autrement, il ne parle pas à Oxford et Cambridge, mais il parle dans le palais urbain de l'aristocratie londonienne, chez Sir Fulke Greville, où sont présents aussi Sir Philip Sidney et d'autres. cette rencontre entre philosophes, où d'ailleurs quelques philosophes universitaires sont invités, elle est décrite dans le Banquet des cendres de Giordano Bruno. Et je trouve cet événement assez symptomatique du fait que de certains sujets, il est plus confortable d'en parler en dehors des universités. Donc les princes ont un rôle indéniablement à jouer par rapport aux sciences. Les princes ont également un rôle à jouer du point de vue des techniques. On verra que dans les doctrines économiques de certains princes de la Renaissance, et plus on s'approche de la fin du XVIe siècle, plus on va dans cette direction d'ailleurs, la défense des techniques, à des fins mercantilistes d'ailleurs, est quelque chose d'assez commun. On trouve le cas aussi bien en Angleterre qu'en Italie, en France, évidemment, aux Pays-Bas. Les choses sont un tout petit peu différentes, puisque on est dans des Pays-Bas, enfin à la fin du XVIe siècle, à partir de 1560, dans des Pays-Bas en guerre, mais j'y reviendrai. Alors, ce qui me frappe, c'est que les points de vue les plus innovateurs émergent souvent hors du cadre universitaire. Alors, vous avez peut-être vu aussi le bon manuel chez Duno, que je trouve pas mal pour commencer. Et dans le bon manuel chez Duno, on explique à partir des travaux de Bruce Moran, qui s'appelait Patronage and Institutions. Vous l'avez dans la bibliographie que j'ai de d'historien et géographe, mais que j'ai remise dans le livret TD que vous récupérerai. Dans ce manuel, on explique qu'il y a plusieurs figures du patronage princier des sciences et des techniques, avec le collectionneur, le praticien, pardon, et le protecteur. Bon, il se trouve que c'est une typologie qui fonctionne à moitié, parce que, comme le dit l'auteur du manuel lui-même, en réalité, les trois figures se compénètrent totalement. Alors, voilà, ce que je... Alors, il y a plusieurs ouvrages que je vous conseillerais de lire. L'un d'entre eux, j'y reviendrai beaucoup peut-être à la fin de ce cours, c'est l'ouvrage de Mario Biagioli qui s'appelle « Galilée courtisan », originellement publié en 1993 à Chicago sur le titre « Galileo Courtia, The Practice of Science in the Culture of Absolutism ». La pratique de la science. Et ce qu'a fait Mario Biagioli, c'est montrer effectivement quelle couleur prenait la science patronnée par les sciences. Donc ce sera bien de finir par ce biais-là. Alors, plutôt que de vous faire un plan, je me refuse à le faire parce que je veux me garder un certain nombre de billes pour moi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je vais vous présenter les choses un petit peu géographiquement, mais à chaque fois, on va essayer de réfléchir à ce qui forme une étape dans cette typologie que l'on pourrait construire, typologie que je trouve... voyez, on pourrait reprendre... collectionneur, praticien, protecteur, mais on va voir que si on mêle les sciences et les techniques, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Alors, on va peut-être commencer par l'Italie à la fin du XVe siècle et du XVIe siècle, et je voudrais vous montrer comment les cours sont devenus des laboratoires du changement. Et je vais commencer par les premiers Médicis et le néoplatonisme. Même si le néoplatonisme, ça peut vous paraître être de la littérature, de la philosophie et pas du tout les sciences, ça n'est pas la façon dont pensaient les hommes de la Renaissance. Alors je vais en profiter pour vous faire un petit topo aussi sur ces questions de néoplatonisme, sauf si vous me dites que vous savez déjà tout sur le sujet. Alors je rappelle que Florence est un lieu important où le prince collectionneur a joué un rôle clé. Parmi les personnages qui, au tournant du 14e et du 15e, du 14e et du 15e siècle, ont joué un rôle clé, il y a évidemment le Poggio Bracciolini, qui est un Florentin, mais qui a beaucoup travaillé pour la cour pontificale. Je vous signale le bel ouvrage de Stephen Greenblatt qui s'appelle Quattrocento, autour de Poggio Bracciolini. Alors Poggio Bracciolini fait partie de ces collectionneurs qui courent pour les princes, en l'occurrence il s'agit du pape, qui courent toutes les abbayes d'Europe, en France, en Lorraine, en Allemagne, en Italie, et qui rapporte tous les ouvrages anciens. En gros, Bracciolini considère que tout ce qui est médiéval, enfin, en gros, ce qui précède le XIVe siècle, ça n'intéresse pas. C'est des choses trop modernes. C'est pas. Il pense qu'il y a un savoir perdu. Donc, c'est cette partie Renaissance de la reconstitution des sciences antiques. Et au milieu de ces lectures, notamment de Cicéron, Bacciolini est un de ceux qui a bien reconstitué le Cicéron, mais aussi Aristote, Bacciolini tombe sur un texte qui est un texte très important pour les sciences, qui est un texte qui est resté en un exemplaire unique. Qui est le De Natura Rerum de Lucrèce, c'est-à-dire le fondement même du matérialisme, c'est-à-dire un texte qui est dans le cadre, c'est assez amusant que ce soit le secrétaire du pape qui le déterre, cet ouvrage, parce que voilà un texte qui est le De Natura Reum de Lucrèce, hein, de la nature des choses. Et ce texte défend l'idée que tout n'est que matière et qu'on peut faire, on peut tout à fait faire l'économie de l'hypothèse de Dieu, ce qui est quand même énorme. Et notamment, l'idée, c'est que avant qu'il y ait l'univers, il y avait simplement les atomes qui tombaient. Un jour, il y a eu un petit décalage, un clinamen, qui fait que voilà, le monde s'est construit. Et ce De Natura Reum est un des textes par lesquels on a accès à une science beaucoup plus ancienne, qui est la science d'Épicure, et qui est une science qui développe les idées atomistes, par exemple. Donc, vous voyez, dans cette récupération des textes anciens par Poggio Bracciolini, Coluccio Salutati, autres collectionneurs florentins, lui est secrétaire de la chancellerie de Florence, on a déjà toute une partie de ce travail de reconstitution de la science antique. Alors, dans la période qui suit ce début du XVe siècle, Le fondateur de la dynastie, enfin, le premier grand fondateur de la dynastie des Médicis, qui d'ailleurs n'est pas prince encore, c'est juste un grand marchand, mais sauf que il s'est débrouillé pour avoir toutes les voies possibles au Conseil des 500 à Florence, donc en réalité, sous ce qui ressemble à une république florentine, en réalité, il y a déjà tout le pouvoir qui est confisqué par une famille, qui est celle des Médicis. Et Côme l'Ancien de Médicis, à ne pas confondre avec Côme Ier, fait partie de ceux qui commencent à rassembler tous ces textes que la génération précédente a commencé à accumuler. Et les rassemble, je rappelle que ce sont des textes, on est avant l'imprimerie, hein, sont des textes manuscrits. Et Côme fait partie de ces pseudo-princes qui commencent à engager des copistes qu'il envoie un petit peu partout pour récupérer ce savoir antique et le stocke dans la bibliothèque du couvent de San Marco à Florence, qui est un petit peu le couvent protégé par la famille. Alors, par exemple, vous voyez les textes dont je parle, c'est par exemple ces Orationes de Cicéron recopiés par le Poggio. Mais vous voyez que ça peut être aussi beaucoup plus joli. Ce sont des manuscrits enluminés dont l'imprimerie ne fera jamais que. Vous voyez que l'imprimerie, c'est l'idée de l'imprimerie, c'est de représenter les textes d'écrire automatiquement les textes manuscrits. Voilà. Alors, il se trouve que Florence, la Florence des Médicis, c'est un lieu important aussi, puisque c'est là qu'affluent les textes grecs au début du XVe siècle, entre autres parce qu'il y a à Florence un concile où les Byzantins, l'empereur Jean Paléologue et toute sa suite viennent au concile de Florence en espérant convaincre les Occidentaux que on pourrait lever une énième croisade contre les Turcs et sauver Byzance de la chute annoncée. Alors c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que dans cette ambassade, et puis aussi dans tous ceux qui fuient le monde byzantin à cette époque, comme d'autres réfugiés fuiraient la Syrie aujourd'hui, ces gens arrivent avec des textes et avec des savoirs, et notamment le fait que, parlant grec, ils lisent les textes anciens en grec très facilement. Et donc beaucoup de professeurs de grec et des savants et des philosophes s'installent à Florence, et comme ce Calliste et Andronico, dont le nom indique déjà qu'il est grec, qui, vous voyez, produit une traduction en latin de textes grecs d'Aristote qui n'étaient pas présents jusque-là. J'aime beaucoup, vous voyez, ce Saint-Augustin de Botticelli, c'est le détail d'une fresque de de Florence, qui représente Saint-Augustin. Et quand vous regardez bien derrière Saint-Augustin, vous voyez quoi? Vous voyez un Euclide avec une horloge astronomique. Et justement, ça fait partie de ces savoirs scientifiques qui arrivent à Florence et que les Médicis vont commencer à entasser dans leur bibliothèque. Vous avez, j'ai eu la chance de les voir encore dernièrement, par exemple, aussi des textes, c'est pas seulement des textes grecs, hein, c'est aussi des textes latins. Par exemple, la grande encyclopédie du monde latin, Pline, est entre les mains de Côme l'Ancien. On a encore aujourd'hui l'ouvrage, et j'ai eu la chance de manipuler l'ouvrage qu'a manipulé Côme l'Ancien de Pline. Et ça, c'est assez fabuleux. Bon, vous voyez donc, première étape, la reconstitution des sciences anciennes. Donc les princes jouent un rôle important de ce point de vue-là. Alors, parmi les textes importants, alors, vous voyez, quand je dis qu'il y a toute une série de savoirs antiques qui sont récupérés, il y a évidemment l'épicurisme, le stoïcisme, le platonisme, l'hermétisme. Et le but de ces savants qui disposent d'une méthode, hein, qu'on appelle la philologie, c'est-à-dire qu'on compare entre les textes et on garde uniquement les textes qui se ressemblent. Quand il y a trop d'écart, on se dit, bon ben voilà, là il y a eu une méthode que tu connais. Là il y a eu déviation par rapport au ur-texte, au texte de départ. Donc on arrive à savoir quel est le texte d'origine. Cette méthode fait que certains savants, comme Valla, par exemple, vont critiquer des textes qui étaient présentés comme des textes antiques, mais qui sont des faux du Moyen-Âge. Par exemple, la donation de Constantin. Enfin bref, il y avait aussi chez ces humanistes, humaniste ça veut dire spécialiste de langue ancienne, hein, au départ, et chez ces spécialistes, il y avait une méthode scientifique pour retrouver le texte d'origine. Et ces textes d'origine, parfois, étaient des textes à fort contenu scientifique. Alors, ici, je ne vous ai pas mis le n'importe quoi, comme je dis, c'est dommage que ce ne soit pas plus grand, mais je pense que vous pouvez lire Proemium, Marsili, Ficini, Florentini, In Libros Plotini, Ad Magninum Laurentium Medicae. Bon, alors voilà un ouvrage dédié à Laurent le Magnifique, qui est donc le descendant de Côme l'Ancien. Et cet ouvrage est un ouvrage qui est une traduction de Plotin. Alors, qu'est-ce que c'est que Plotin? Alors, Plotin, justement, c'est le, quand je disais que les Médicis étaient très importants dans la protection de non seulement de la récupération des textes, mais de certains éléments philosophiques particuliers. Là, on est complètement dans le néoplatonisme. Qu'est-ce que c'est que le néoplatonisme? Ce sont des commentaires de Platon, commentaires de Platon qui sont aussi des commentaires antiques, qui se sont faits, par exemple, au IVe siècle, sous la plume de Plotin, sous la plume de Porphyre et d'autres. Et ces textes posent des questions qui sont souvent des questions véritablement scientifiques. Je donne simplement un exemple des textes que Laurent le Magnifique, un prince qui est un praticien des sciences de ce point de vue-là, parce que Laurent le Magnifique s'intéresse énormément au néoplatonisme. Il a même créé une petite académie avec quelques humanistes qui sont autour de lui. Et cette académie, je peux vous montrer déjà les personnages, cette académie, elle est menée par des gens comme Marsile Fifin, qui traduit Plotin et Proclus, voilà, ou Jean Pic de la Mirandole, etc. J'aurai l'occasion peut-être, voilà, dans ces gens se réunissaient dans la villa de Careggi, que vous voyez en piteux état derrière, mais depuis cette année, ça a été retapé. Et vous avez dans ce tableau de Botticelli d'une Adoration des mages, vous avez Laurent le Magnifique, ici, en grande discussion avec Marcel Fissin et Pic de la Mirandole. Alors, que font ces auteurs? Eh bien, notamment, ils vont adapter pour le christianisme Platon. Il y a une question que... Alors, je repars, si vous voulez, deux secondes à Platon pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Parmi les idées de Platon qui plaisaient bien au christianisme, il y avait une doctrine de l'amour. Je trouve que le christianisme, c'est très largement une doctrine de l'amour, et que Platon parlait beaucoup, je parle sous l'œil d'un helléniste patenté, donc je tremble à l'idée de dire des bêtises, tu me corrigeras si tu le sens nécessaire. Platon, en fait, il y a au moins deux textes qui sont très importants de ce point de vue-là, c'est d'une part le Banquet, et d'autre part le Timée. Et obligé de vous faire les choses un peu rapidement, mais disons que dans le Banquet, vous savez que il y a la mise en scène de ce banquet de philosophes où au départ se joue l'amour pour le bel Éphèbe, donc l'amour matériel, le désir charnel pour le bel Éphèbe, qui se transforme en amour du beau. De l'amour du beau, on passe insensiblement au cours du banquet à l'amour du bon. De l'amour du bon, on passe à l'amour du vrai, et on est par ce biais capable de remonter peu à peu au monde des idées. Hein, la grande idée de Platon étant que la matière est une dégradation par rapport au monde des idées, et que si l'on veut comprendre l'univers, il faut remonter jusqu'au monde des idées, faire opérer ce qu'il appelle une catabase, un retournement, et pour remonter au monde des idées. Les néoplatoniciens qui arrivent, bon, donc Platon, vous voyez, 5e siècle avant Jésus-Christ, les néoplatoniciens, on est plutôt beaucoup plus tard, on est à la période romaine déjà, Plotin, c'est 4e siècle par exemple, et ces néoplatoniciens ont des idées assez intéressantes. Sur, en gros, la cosmogonie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on oublie le christianisme. Hein, on essaye de penser en philosophe à qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il y ait quelque chose. Et là, on est déjà dans la science, si vous voulez. On est aujourd'hui... bon, voilà, il y a les astrophysiciens qui discutent de ces choses-là. On pense à Hawking, etc. Eh bien, le Hawking du 4e siècle après Jésus-Christ, c'est donc Plotin. Et il explique quoi? Il essaye de réfléchir à ce qu'il y avait avant qu'il y ait du quelque chose. Et dans quel ordre mettre les choses. Et il part de l'idée que il faut d'abord qu'il y ait quelque chose comme... l'idée du monde, l'idée qu'il y a quelque chose, enfin que dans l'incréé qui est au-delà du logos, au-delà du savoir, au-delà même de la matière, etc., il faut que de ça émerge quelque chose, et donc il faut l'âme du monde, le nous. Cette âme du monde va créer ce qui va rendre possible le monde. La première chose que rend possible, qui rend possible le monde avant avant même qu'il y ait le temps et l'espace, c'est l'un et le multiple. Parce que sans l'un et le multiple, l'espace et le temps ne sont pas possibles. Il faut, puisque si on lit Aristote, l'espace, c'est, enfin, le temps, c'est la numération du mouvement, donc il faut... Voilà, il faut de la numération, donc il faut de la haine du multiple, et puis après il faut de l'espace. Donc vous voyez, il y a une sorte de réflexion logique sur les divers instants de la création. Alors le premier instant de la création, Plotin renonce un petit peu, ou alors fait appel à la poésie en disant « ça surabonde, l'incréé surabonde comme une fontaine ». Mais après, tout devient assez logique, c'est-à-dire que chaque étape de la création du monde, l'un est multiple, le temps, le logos, c'est c'est-à-dire le monde des idées, si vous voulez, le langage, mais un langage qui, au départ, est, avant la création, est performatif. C'est-à-dire, vous voyez, le langage de l'incréé, c'est la vraie réalité des formes. Et tout ça correspond assez bien, pour les chrétiens, c'est assez récupérable, hein. C'est-à-dire, regardez dans la Genèse, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Hein, c'est vraiment l'idée que le langage de Dieu est performatif, crée le monde. Bon, etc. Tous ces éléments qui structurent la création, depuis l'origine innommée, innommable, avant même l'espace et le temps. Les néoplatoniciens appellent ça des hypostases. Pour les hellénistes, c'est pas un vrai problème, ce mot. Ça veut dire juste le machin qui se tient en dessous. Stasis, c'est la position en dessous. Voilà. Et donc, la création du monde serait une création d'éléments qui se succèdent comme ça. Et tout ça, ça a des effets sur la science. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le monde d'en haut se reflète dans le monde d'en bas. C'est-à-dire que toutes les hypostases ont quelque part des échos du monde de l'hypostase du dessus. C'est-à-dire que pour les néoplatoniciens, qui vont se mélanger avec un courant qui s'appelle courant ésotérique, il est possible de retrouver, par exemple, des effets des plantes, que dans les plantes, on retrouve des choses qui sont dans l'homme, et qu'on ait des effets d'écho comme ça dans la création. Alors, traduit en termes chrétiens, c'est la théorie des signatures, c'est-à-dire que Dieu a laissé des signatures de ses idées à chaque niveau de la création. Donc, but du jeu, chez les alchimistes et autres ésotériciens, retrouver des éléments de la signature de Dieu. Voilà. Excusez-moi d'être entré dans un débat philosophique, mais c'est pour vous montrer que là, le patronage des Médicis était un patronage de la philosophie, mais qui était aussi un patronage des sciences. Par exemple, là, vous avez peut-être, je ne sais pas si vous le voyez, au milieu de la diapositive, vous avez le Corpus Hermeticus, hein, Mercure Trismégiste, livre du pouvoir et du savoir. Traduit du grec en latin. Bon, Hermès Trismégiste, c'est un personnage mythique qui aurait vécu au temps de Pythagore et de Moïse. Alors, évidemment, ça, chronologiquement, on est un peu gêné, mais bon, admettons. Cet Hermès Trismégiste aurait laissé un savoir antique, secret, qui courrait dans tous les livres de secrets qui existent depuis l'Antiquité. Vous avez un bon livre de William Heman, E-A-M-O-N, qui s'appelle The Books of Secret and Nature, je crois, et sur ces livres de secrets. Mais vous voyez que l'Académie de Marcel Fissin est aussi une académie qui s'intéresse profondément à ces livres de secrets, qui sont des secrets d'alchimie, qui sont des secrets des secrets philosophiques ou des secrets les plus divers, y compris militaires. Voilà. Voilà tout ce qui se passe au sein de la petite académie de Careggi. Et là, vous avez vraiment... Alors, les Médicis ne sont pas encore vraiment des princes, mais en fait, ils sont des princes en devenir. Et voilà. Et les humanistes de l'académie platonicienne de Florence, vous voyez qu'ils sont très présents dans la cour des princes, puisque dans cette fresque, je crois, d'André del Castagne, vous avez à la fois Marcel Fissin, Cristoforo Landino, Ange Policien, Gentile De Becchi. Voilà les membres de cette académie. Vous voyez qu'ils méritent à ce point d'être proches des Médicis que quand on représente les Médicis sur une fresque, on les représente aussi. Alors, je passe sur Nicolas de Cus. Alors, c'est important parce que toutes ces idées défendues par les Médicis du néoplatonisme et des idées philosophiques du néoplatonisme, vous allez les retrouver un petit peu partout en Europe. Hein. Donc, le patronage des princes, c'est aussi la diffusion de ces grandes idées. Et le néoplatonisme circule depuis Florence en Angleterre avec John Collett et Thomas More, bien connu, en France avec, j'ai gardé plutôt les scientifiques, hein, avec Lefèvre d'Étaples et Charles Bovell, Charles Bovell étant à la fois professeur de grammaire et de mathématiques auprès de François Ier, Lefèvre d'Étaples, on ne le présente plus, et puis je vous ai... J'ai laissé de côté les poètes exprès, parce que bon, mais évidemment ça influence considérablement la poésie. En Italie, c'est bon, voilà. Et ça va, pour sortir même de votre programme, les idées néoplatoniciennes, on les retrouve en Espagne, on les retrouve même en Hongrie, chez Mathias Corvin. Voilà. Alors, plus les Médicis vont croître en pouvoir, plus cette collection des savoirs antiques va devenir importante pour eux. Et quand après Laurent le Magnifique, quand les Médicis vont revenir à Florence et là vont devenir des princes, par exemple, on va notamment concentrer tout le savoir dans une bibliothèque absolument merveilleuse, décoré par Michel-Ange lui-même, qui est la bibliothèque laurentienne, où vous aurez tous les savoirs latins, grecs, arabes récupérables, disponibles dans un endroit, dans un seul endroit. Cette bibliothèque existe toujours. Alors voilà, ça c'était un premier exemple, l'exemple florentin. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est les princes d'Urbino, et bon, j'irai nous emmènerait également à Venise. Alors, peut-être le... Oui, voilà. Peut-être ce mécénat des princes à Urbino est-il le plus magnifiquement illustré par ce tableau où l'on voit un mathématicien franciscain qui s'appelle Luca Pacioli. Et vous avez derrière lui un jeune prince qui est Guidobaldo da Montefeltre. Alors, M-O-N-T-E-F-E-L-T-R-E. Guidobaldo da Montefeltre, c'est le fils du duc précédent. Je vais revenir au duc précédent. Mais cette scène que l'on a ici est assez intéressante parce qu'on voit la façon dont le prince, évidemment, à la fois protège le franciscain, mais à la fois la façon dont le professeur de mathématiques franciscain éduque le prince aux sciences. Alors, et des savoirs qui sont mathématiques, mais qui sont aussi ésotériques. Luca Pacioli est l'un de ceux... qui a écrit beaucoup sur ce qu'au XIXe siècle on appellera le nombre d'or, mais ce qu'il appelle lui-même la divine proportion. C'est-à-dire qu'à partir de sa lecture d'Euclide, il se rend compte qu'il y a des choses merveilleuses dans les maths et entre autres peut-être une preuve de l'existence de Dieu. Enfin, c'est comme ça que lui voit les choses. Euclide disait que quand vous partagez un segment de droite en deux parties, avec un gros morceau, un petit morceau, sur le segment de droite, il y a un point et un seul qui vérifient l'équation. Je le dis en termes modernes, de manière à être plus facilement compris. Dit dans les termes d'Euclide, il faut reprendre quand même quelques aspirines avant de voir de quoi il s'agit, mais en gros ça vérifie l'équation suivante: le petit morceau sur le gros morceau est égal au gros morceau sur la totalité. Pour que cette égalité soit vérifiée, il faut placer le point de séparation entre le petit morceau et le gros morceau en un point et un seul, et ce point il se trouve qu'il a des propriétés incroyables, notamment les Grecs, évidemment, puisque Euclide déjà, mais c'était probablement pas Euclide qui avait découvert ça. Les Grecs s'en sont servis, par exemple, pour dessiner la géométrie du Parthénon. C'est globalement ça représente cette proportion de la feuille A4, plus ou moins. Grand morceau, petit morceau. Et ce truc-là a des particularités incroyables en mathématiques. Par exemple, le fait que quand vous prenez un pentagone régulier, comme ici, le côté du pentagone sur la diagonale du pentagone, ben, c'est exactement ce rapport-là. Donc, vous voyez, il y a une sorte... pour le franciscain, défendre les mathématiques, c'est défendre le langage de Dieu lui-même. On n'est pas loin des idées du néoplatonisme et du pythagorisme. Voilà. Donc, vous voyez, là, toujours, ce lien entre le prince et les sciences. Mais pourquoi Luca Pacioli est-il à Urbino, dans ce merveilleux palais d'Urbino? Eh bien, c'est parce que son père, qui n'est pas... Excusez-moi, c'est mes doigts ont fourché. C'est Federico da Montefeltre, ou da Montefeltro, comme vous voudrez. Frédéric de Montefeltre, ce personnage en armure que vous avez ici en lecture d'un ouvrage couvert d'un merveilleux maroquin rouge, avait dans cette salle précise à l'intérieur de son palais, il avait une des bibliothèques les plus précieuses qui soient. Une bibliothèque avec lui aussi une collection d'ouvrages de l'Antiquité des plus fabuleuses. Alors bien sûr, il y avait des ouvrages religieux, mais il y avait aussi des ouvrages de mathématiques. J'en veux pour preuve que à la génération suivante, en 1503, un certain Léonard de Vinci, travaillant pour César Borgia, qui venait de prendre le palais des ducs d'Urbino, écrit pour lui-même « N'oublie pas de récupérer l'Archimède du duc d'Urbino ». En fait, Archimède, il y en a très peu de copies à ce moment-là, et il se trouve qu'il y en a une à Urbino. Et donc Léonard fait main basse sur toutes les copies d'Archimède qu'il y a dans la zone. Tout ça pourquoi? Parce que les princes d'Urbino ont fait la collection de tous les textes anciens, que ce soit Archimède, Papus, Héron d'Alexandrie. Les grands textes scientifiques de l'Antiquité sont là, disponibles dans cette bibliothèque. Et la méthode du duc d'Urbino est un peu la même que celle des Médicis, hein, c'est-à-dire qu'il envoie partout des copistes pour récupérer des versions les plus magnifiques qui soient. Il y a un livre qui a été publié récemment sur la bibliothèque du duc d'Urbino. C'est intéressant parce que si je continue au XVIe siècle, toujours chez les ducs d'Urbino, on s'aperçoit que il y a énormément de... cette leçon selon laquelle les sciences... ah oui, j'ai oublié de dire ça. En tout cas, je finis ma phrase. Cette leçon continue. Alors, juste pour vous dire aussi l'intérêt du duc d'Urbino qui précède pour les sciences et les techniques. Oui, pour vous le présenter, c'est un personnage qui est un humaniste. Vous avez sans doute lu des choses sur son cabinet de curiosité à l'intérieur de son palais. Et cabinet de curiosité dans lequel il représente, c'est généreux de sa part, tous ses profs. Guarino da Verona, pensez-y quand vous fabriquerez votre prochain cabinet de curiosité. Guarino da Verona, Aristote, et les grands de ce monde. Mais en même temps, c'est un guerrier. Et en fait, sa fortune vient du fait qu'il était un condottiere et qu'il louait son armée pour qui en avait besoin. Alors parfois c'était le pape, parfois c'était Florence. Et il s'est fait une véritable fortune, et c'est grâce à cela qu'il construit son palais et qu'il construit ses belles collections. Mais ce prince guerrier est aussi très soucieux de préserver des techniques. Un bon exemple de son goût pour les techniques, c'est le fait que parmi ses ennemis, il y avait une famille... des marches, non loin de chez lui, à Urbino, qui s'appelaient les Malatesta. Les Malatesta avaient à leur service un humaniste qui s'appelait Valturio, V-A-L-T-U-R-I-O. Valturio est quelqu'un qui avait écrit un ouvrage très important qui s'appelle le De re militari, de la chose militaire, des choses militaires. Et le livre de Valturio, c'était une sorte de compendium technologique de toutes les machines de guerre possibles et imaginables à l'époque des Malatesta. Quand le duc d'Urbino va réussir à écraser les Malatesta, il va récupérer les livres de Valturio, évidemment, qui vont tenir une belle place dans sa bibliothèque. Mais mieux que ça encore, je trouve que c'est un magnifique exemple. Les machines représentées par Valturio dans le De re militari, il va les faire sculpter en bas-relief sur son château. Autrement dit, le prince donne à voir, tatoue sur sur ce palais dans lequel nul ne peut entrer s'il n'est invité, il tatoue sa culture militaire et sa culture technologique. Il y ajoute les machines inventées par les savants qui travaillent pour lui, comme Francesco Di Giorgio Martini, un des grands ingénieurs de l'époque. Mais je trouve que c'est un bel exemple pour une copie de dissertation, hein, cette idée de montrer Urbi et Orbi à la ville et au monde que le prince détient les secrets de la science militaire et de la technologie. Alors, je disais que la cour d'Urbino devient, à partir des années 1540-1550, un lieu qui continue d'être important au niveau militaire. Alors, c'est plus la même dynastie, c'est la dynastie des Della Rovere, c'est-à-dire du chêne, du rouvière, Della Rovere, R-O-V-R-E, qui est notamment, bon, alors je vous passe les événements politiques qui ont amené les Della Rovere sur le trône là. Ce qui est important, c'est que c'est la ville notamment de Francesco Della Rovere, Francesco Maria Della Rovere, qui est le patron d'un certain Tartaglia, ça s'écrit. Et ce Tartaglia, il est très très important en histoire des sciences et en histoire de la physique, parce que c'est lui qui met au point une approche géométrique de la balistique et de l'artillerie. Dans deux ouvrages qui s'appellent la nouvelle science, la Nova Scienza, pardon, et les Quesiti, c'est-à-dire les questions. Alors je vous renvoie dans le livret de TD que j'ai concocté aux textes, aux extraits des ouvrages de Tartaglia. Donc la cour devient un haut lieu du savoir militaire et de la façon dont le savoir militaire flirte avec le savoir scientifique. Cette cour devient aussi un haut lieu de l'enseignement des mathématiques. Le personnage de cette centrale de cette histoire, vous l'avez sur la diapositive, il s'agit d'un certain Federico Comandino, Frédéric Commandin, dit-on dans les textes français du XVIe et du XVIIe siècle. Federico Comandino, c'est le fils d'un architecte formé dans diverses cours, formé aussi à l'université de Padoue, et qui se met au service donc du duc d'Urbino, qui à l'époque est Guidobaldo della Rovere, mais passons, et il se dédie totalement, ce Cristoforo Comandino, à l'étude de l'arithmétique et de la géométrie. Là encore, au début, le travail, c'est celui de la restauration des anciens. Mais là, on passe à un nouvel élément, et ça, c'est aussi intéressant que les princes soit derrière ce genre d'entreprise, c'est la traduction en langue vernaculaire des textes des anciens, notamment Euclide, puisque vous avez ici le premier ouvrage, la première version des éléments d'Euclide en italien. Le premier ouvrage des éléments d'Euclide en anglais sort peu de temps après, mais par des gens qui sont venus d'abord voir Commandino à Urbino. Voilà. Alors, tout ça est possible aussi parce que derrière, il y a eu toute la collection, tous les livres accumulés depuis plusieurs générations. Alors, vous avez toute une série de savants. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous les cite tous, hein, mais ils sont importants. Il y a un Bernardino Baldi qui écrit une vie des plus grands mathématiciens. Il y a un homme de lettres qu'on connaît, c'est le Taf, hein, l'auteur de la Jérusalem délivrée, qui est là. Il y a un certain Valerio Spaccioli. Passons, c'est pas très intéressant. Celui qui m'intéresse le plus, c'est, je pense, un personnage clé dans la physique de la Renaissance, qui s'appelle Guidobaldo d'Almonte. Guidobaldo d'Almonte, c'est le grand théoricien de la mécanique à la fin du XVIe siècle. Guidobaldo d'Almonte. Et vous voyez comment des lieux, avec le patronage des princes, avec les outils spécifiques, deviennent parfaitement lieux d'innovation. Alors, que fait Commandino ? Ben, il fait apprendre par cœur des théorèmes, des manipulations d'instruments, etc. à ses élèves. Et beaucoup des élèves de Commandino deviennent, à leur tour, des professeurs de mathématiques. Guidobaldo d'Almonte, qui était en fait un marquis. Donc il s'est beaucoup illustré à la guerre, y compris la guerre contre les Turcs, il est allé en Hongrie, etc. Mais après la guerre, il revient plein d'usage et raison, et il rentre dans son palais des Marches, dans son petit château des Marches, et là, il fait de la science. Et il en fait très très sérieusement. Et parmi les élèves qui viennent le voir, notamment un été de la fin du XVIe siècle, il y a un jeune savant qui s'appelle Galileo Galilei. Et si Galilée obtient un poste à l'université à Pise, c'est par le soutien de ce marquis italien qui a étudié dans le cadre d'Urbino. Alors voyez, on est dans les circulations là aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un noyau extrêmement, extrêmement important. Et Guidobaldo d'Almonte lui-même a eu autour de lui, c'est un marquis, donc c'est peut-être pas un grand prince, mais c'est pas mal quand même, Guidobaldo d'Almonte avait autour de lui un savant, un cercle de disciples tout à fait impressionnant. Si vous voulez faire un pèlerinage comme je l'ai fait chez Guidobaldo d'Almonte, vous pouvez aller voir la petite ville de Monte Barocchio, un lieu de retraite où l'on fait des mathématiques et où on cherche, on fabrique des instruments scientifiques et où on cherche à réduire la mécanique en éléments simples. Un truc très, très important. Voilà, donc ça c'était mon deuxième exemple. Alors oui, pardon, voilà, je vous présente Federico Francesco della Rovere, le patron, et Tartaglia, l'auteur des Quesiti. C'est intéressant parce qu'ils ne font pas que des maths. C'est-à-dire que là, le prince, par exemple, excusez-moi, l'esprit d'escalier, le prince fait des choses extraordinaires. Notamment, il prête à son mathématicien, qui au début est un fils de postier, si vous voulez. Donc, c'est vraiment le savoir du mathématicien qui le fait adorer par la cour. Il lui prête ses couleuvrines. Et ils font les couleuvrines, vous savez, c'est la Ferrari du canon du XVIe siècle. Et avec les couleuvrines, Tartaglia découvre une loi qui énerve tout le monde. Ce qu'il publie dans les Quesiti, il dit « J'ai trouvé une solution pour, vous me donnez la portée d'un canon pour une élévation donnée, C'est-à-dire, si le canon, mettons, est à 30 degrés, vous me donnez la portée de tir et je vous donne toutes les portées de tir à toutes les élévations. Il dit, mais je ne vais pas vous dire comment je le fais. C'est un peu ce que j'ai fait là avec ce cours. Je ne vais pas vous dire comment je l'ai fait, mais je sais le faire. Et du coup, tous les savants de la fin du XVIe siècle planchent sur le truc et cherchent la solution. Je vous en reparlerai parce qu'il se trouve que ces savants, c'est Galilée en Italie et c'est un certain Thomas Harriot en Angleterre, dont je vous montrerai qu'ils sont assez intéressants aussi. Bien. Voilà, voilà. Je passe Contarini et les Vénitiens, j'en reparlerai à propos de Galilée. Troisième site que je trouve intéressant parce que, bon, d'abord parce que c'est mon chouchou, mais c'est Milan. Et c'est le moment de l'interaction entre Ludovic Sforza et Léonard de Vinci. Madame Guillorel m'a dit que vous aviez réservé Léonard de Vinci pour que j'en parle, donc voilà, je vais en parler. Et là, je crois qu'on a le cas du lien d'un patron et d'un savant technicien hors norme. C'est pas que Ludovic Sforza n'avait pas d'autres ingénieurs à son service, il en avait toute une série, mais celui-là, qui au début était un piètre ingénieur, au point même que Ludovic Sforza, quand Léonard de Vinci lui envoie sa fameuse lettre de candidature, il ne la prend pas en considération, il dit « c'est qui ce gars ?» Mais au bout du compte, ça va être quelqu'un que Ludovic Sforza va protéger. Et vous allez voir qui se passe à Milan entre 1482 et 1499. Il se passe beaucoup de choses que je vais essayer d'éclaircir pour vous. Quand Léonard de Vinci arrive à Milan, il y arrive en 1482 au titre d'ambassadeur. Et sa grande compétence, c'est de jouer, je le dis sans mépris, Eva, c'est de jouer de la lira da braccio et de pouvoir chanter tout en s'accompagnant de la lira da braccio et de raconter des histoires, faire un peu des petites impros de musique populaire. Ludovic Lemort, je vous le présente, il n'est même pas duc puisqu'il a usurpé un peu le pouvoir de son neveu, mais peu importe. En tout cas, c'est lui l'homme puissant à Milan. Et voilà son neveu. Vous voyez que Gian Galeazzo Maria n'avait absolument aucune chance face à son oncle. Ludovic dit Lemort parce qu'il était un petit peu basané, a fait gentiment empoisonner son neveu à la chartreuse de Pavie, ce qui fait que bientôt on n'a plus parlé du neveu. Au début, quand Léonard arrive à Milan, il s'agit de fortifier Milan, fortifier cette forteresse, déjà fortifiée par un Florentin auparavant, qui s'appelait le Filaret. Donc il y avait déjà des ingénieurs florentins qui venaient à Milan. D'ailleurs, c'est la génération, en cette fin du XVe siècle, où la notion d'ingénieur se forme. Ingénieur militaire, évidemment. Et Léonard voit bien qu'il y a une double stratégie à construire. D'une part, s'éloigner des confréries pour être un artiste de cour. Ça n'est pas notre sujet. Mais la deuxième possibilité gagnante serait d'apparaître comme un ingénieur militaire, un technicien. Et ça, c'est pas gagné parce qu'évidemment, il n'en a pas du tout la formation, même si c'est des choses. Notamment, même s'il a lu Valturio, etc., dont j'ai parlé précédemment. Alors, dans une première étape, les premières années de Léonard, on voit qu'il travaille beaucoup sur la fortification. Mais il y travaille un petit peu comme un artiste. Vous le voyez ici dans ce projet du manuscrit B, où il propose de remplacer la tour du Filaret par cette poivrière géante qui fait peut-être un peu penser à Shrek. Et voilà. Donc, au départ, il n'est pas tout à fait compétent sur le domaine. Mais très vite, il le devient. Vous voyez, par exemple, dans ce dessin, il s'agit toujours de compléter les fortifications du château de Milan, du Castello Sforzesco. Et ici, on voit, je vous demande de me croire, dans le texte d'accompagnement du dessin, donc on voit deux enceintes fortifiées, mais il y a toute une réflexion sur ce qu'on appelle les galeries de chat, c'est-à-dire les galeries cachées à l'intérieur du mur qui permettent de contrôler ce qui se passe dans les fossés. Bon, rien de très neuf dans cette fortification-là. Je dis que bon, voilà, c'est de la fortification médiévale, mais simplement Léonard acquiert petit à petit, on le voit dans le texte, le vocabulaire des ingénieurs. Et petit à petit, Léonard, par exemple, lors de la construction de la Chartreuse de Pavie, enfin les améliorations de la Chartreuse de Pavie, Léonard va rencontrer d'autres ingénieurs. L'un d'entre eux s'appelle Angelo Di Pastuccio, surnommé Bramante, et auprès de Bramante, il apprend pas mal de choses sur les techniques de fortification. Par exemple, il y a un petit texte de Léonard dans le manuscrit L à propos d'un petit pont-levis que m'a montré, je cite, Donatino. Donatino, c'est Bramante. Donc on voit que là, il y a une collaboration. Donc au tout début des années 1490, Léonard est en train d'apprendre un savoir technique à la cour de Ludovic Lemort. Et pourquoi est-ce qu'il peut le faire? Eh bien, tout simplement parce que autour du pseudo-duc, il y a un milieu de savants et de techniciens. On voit très bien comment ça avance, puisque vous voyez que là, on est dans une... dans les années 1490, mais plutôt à la fin des années 1490, et vous avez ici une fortification. Vous voyez que là, c'est plus des tours, ce sont des bastions, et un bastion quadrangulaire qui permet, où Léonard a réfléchi à la couverture des fossés par des casemates d'artillerie. Et donc c'est une fortification déjà enterrée, une fortification avec déjà une idée de bastion. Et vous voyez sur cet autre dessin, l'idée c'est de protéger la tour du Filaret, de protéger l'entrée du Castello Sforzesco avec un ravelin, c'est-à-dire une fortification de terre. C'est-à-dire que dans ces années-là, Léonard est en train d'apprendre la façon de protéger une fortification, un palais, par de l'artillerie nouvelle. Donc, c'est donc dans ce milieu que les choses sont apprises. Autre théorie, par exemple, ici, sur ce dessin, vous voyez comment Léonard essaye d'imaginer des techniques pour que, au lieu d'avoir un mur traditionnel, on a des murs avec des sortes de petites choses en cylindre pour dévier les tirs des canons. En réalité, ce serait une mauvaise idée parce qu'il suffit que vous tiriez en biais et là, cette technique-là fragilise le mur. Mais l'idée de Léonard, qui est une idée de physicien, c'est que si le boulet arrive sur un demi-cylindre comme ça, la force du boulet est partagée en deux. Vous voyez comment les réflexions sur la balistique et la fortification évoluent. Alors après, vous voyez que Léonard vraiment améliore sensiblement ses idées. Ici, il y a à la fois une réflexion sur la façon dont la forme des murs va dévier les boulets, mais il ne résiste pas quand même à continuer dans la défense verticale depuis un point central. Comme à Château-Gaillard, hein, si vous voulez. Mais vous voyez que là, toute l'artillerie, l'idée, c'est que un tir rasant depuis un donjon central permet de protéger la structure circulaire de cette forteresse imaginaire. En fait, à ce moment-là, Léonard travaille avec quelqu'un qui est venu d'Urbino, qui s'appelle Francesco Di Giorgio Martini, qui était justement au service du duc d'Urbino juste avant. Vous voyez donc, des transferts de savoir-faire se font dans ce milieu. Voilà. Et puis là, vous avez des réflexions. Là, on est vers 1504. Là, vous voyez qu'il a beaucoup évolué avec des fronts en tenaille, des études de feu croisés, des forteresses en étoiles. On est déjà dans la modernité.